Avant d'être directeur du Musée international d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds, vous avez travaillé notamment au Sentier, chez Jaeger LeCoultre. Là, ce qui était intéressant, c'était le patrimoine horloger aussi de cette grande marque. Avant, vous êtes titulaire d'un master, recherche en histoire des économies des sociétés industrielles en Europe, et, on le disait tout à l'heure, un doctorat en histoire portant sur l'univers visuel de l'entreprise Suchard. Ça vous a demandé 5 ou 6 ans de travail. Est-ce que c'est l'étude qui vous a amené au chocolat ou le chocolat qui vous a amené à l'étude?
Bonne question. Certainement un peu des deux. Si j'y réfléchis, c'est difficile de dire qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier. Mais ce que je voulais aussi souligner, ce que je fais dans l'introduction de cette thèse, c'est que il y a un sourire quand on dit qu'on étudie le chocolat ou l'alimentation en général, mais le chocolat en particulier. Mais ça reflète bien le statut de cet aliment dans nos sociétés. On a du chocolat partout, on s'en offre sans arrêt. Et c'était peut-être aussi intéressant de l'étudier sous un angle là, purement scientifique, bah aussi un petit peu par le goût, mais dans une perspective historique, le goût, ça devient vite un problème. Et là, c'était vraiment de travailler sur une histoire de l'industrie alimentaire, finalement.
Alors justement, dans un premier lieu, ce qui était intéressant, c'est l'image. Hein. Comment on va représenter le chocolat? Et des images, il y en a plein. Il y en a qui ont été reprises avec les marmottes qui emballent le chocolat, enfin, tout ça. Mais c'est important, cette image, elle véhicule vraiment quelque chose qui fait que le consommateur va s'intéresser à ce type de produit.
Oui, et l'étudier en Suisse, c'est particulier, parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a de Suisse dans le chocolat? Certainement pas le cacao, un peu de sucre, et puis le lait. Alors là, on parle déjà de chocolat au lait. Donc il y a une association du pays aussi à l'image d'un produit, et cette association qu'on retrouve aussi avec l'horlogerie au passage, donc qui sont intéressants. Et c'est cette construction finalement d'une identité à la fois nationale, mais aussi d'un produit qu'on va caractériser par sa provenance toute relative en ce qui concerne le chocolat et la Suisse.
Ce qui vous a intéressé aussi, puisque vous parliez du goût tout à l'heure, c'est que le chocolat suisse fabriqué en Suisse, quand on va l'exporter dans un autre pays, ne sera pas tout à fait le même goût, parce qu'on n'a pas tout à fait la même culture et les mêmes attentes.
Alors il y a effectivement deux comportements possibles de l'industrie alimentaire qui se développe au niveau international, c'est-à-dire soit vous adaptez vos recettes à des marchés locaux, vous faites fabriquer vos chocolats par exemple sur dans des usines de fabrication qui sont dans les marchés, ou alors vous standardisez un goût pour qu'il soit acceptable par tous. Et ça, c'est la transition qu'on a pu constater dans le cas des recherches menées sur Suchard et sur Milka en particulier, c'est-à-dire l'internationalisation aussi dans certains goûts.
Milka, justement, hein, c'était un des chapitres importants.
Oui, c'est un chapitre important parce que c'est un produit quand même emblématique. Il y en a eu tellement que j'y serais encore si j'avais étudié d'autres exemples. Mais il était particulièrement frappant de voir le succès qu'a Milka et toute l'imagerie qui est autour, qui nous vient en fait plutôt de stratégies publicitaires allemandes, puisque la moitié des tablettes de chocolat au lait vendues en Allemagne étaient, alors je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais ont longtemps été du Milka, alors qu'en Suisse, c'est un produit qui était plutôt délaissé, en fait. Et là, derrière, c'est tout un tas d'informations qu'on peut chercher, qu'on peut aussi divulguer sur les consommateurs, sur les sensibilités aux marques et sur les stratégies de commercialisation de chocolat.
Vous avez évoqué tout à l'heure, c'est vrai, ce chocolat que l'on associe à la Suisse, alors que la fève de cacao, on ne la trouve vraiment pas dans nos montagnes, hein, loin de là d'ailleurs. L'horlogerie, vous le disiez, c'est un peu la même chose. C'est vrai que l'horlogerie, notamment tout ce qui est horlogerie dans l'arc jurassien, ce sont quand même des horlogers qui, dans certains cas, sont partis de Paris, qui sont arrivés sur Genève et qui, finalement, se sont installés dans l'arc jurassien. C'est un aspect, c'était intéressant ça, de voir pourquoi la Suisse, ce petit coin de pays, attire ces gens.
Alors, ça va dans les deux sens. Hein. Il y a aussi des horlogers neuchâtelois qui vont à Paris, parce que c'est à Paris et à Londres que le marché existe et qu'on peut établir des comptoirs et faire l'exportation. Donc, il ne faut pas avoir une vision trop simplifié de ces échanges et des migrations liées à ça. Mais l'image de l'horlogerie suisse repose aussi sur des critères légaux. On a beaucoup parlé il y a quelque temps du Swiss Made, savoir quel est le pourcentage de Suisse dans une montre pour qu'on puisse dire que c'est une montre suisse. Et c'est la même chose pour le chocolat, avec des exceptions. Pour le chocolat, c'est le cas du cacao. Donc on arrive à faire un produit labellisé suisse avec une origine non suisse. Et là, tous les enjeux sont des enjeux industriels et commerciaux, de savoir où est-ce qu'on met le curseur et qu'est-ce qui fait que l'horlogerie peut être, ou une montre peut être caractérisée ou labellisée comme Swiss Made.